tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bienvenue à vous dans la chronique mensuelle de la Ligue des droits humains, section nantaise, diffusée sur les ondes de Jet FM. Et bienvenue au bar Personne, au croisement de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville à Nantes, où nous enregistrons tous les mois la chronique, diffusée tous les premiers mercredis du mois sur les ondes de Jet FM. Pour cette chronique d'automne, nous avons choisi de vous parler d'un droit essentiel, le droit au logement. Et pour en parler le mieux possible, nous avons avec nous Annie, membre de l'ALDH et du collectif Personne à la rue. Nous écouterons le témoignage de Pascaline, victime du sans-abrisme et membre du DAL. Nathalène est là aussi, ainsi que Franz à la technique.
Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter le collectif Personne à la rue ? Qui donc agit dans l'agglomération nantaise.
Oui, le collectif Personne à la rue est né en 2016, dans une situation très dégradée, qui ne s'est pas améliorée depuis, hélas, sur la condition des personnes à la rue et particulièrement sur le manque d'hébergement d'urgence. Donc c'est un collectif, la LDH était à l'initiative, avec le DAL, qui est une association qui se préoccupe du logement, droit au logement, avec d'autres associations. Et donc, aujourd'hui, le collectif Personnes à la rue compte une quarantaine d'associations. Il se réunit régulièrement une fois par mois pour faire le point sur la situation des personnes et des familles à la rue. Il est surtout préoccupé par la question, alors, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps, il est surtout préoccupé par la question de l'hébergement, parce que ce sont vraiment les personnes qui n'ont rien, qui sont dehors et qui ont donc besoin en priorité d'être hébergées. Voilà.
Et quelles sont les actions qui sont menées par le collectif ?
Alors, les actions menées par le collectif, il y a déjà l'interpellation des pouvoirs publics, les mairies, la préfecture, puisque l'hébergement d'urgence est une prérogative de l'État. C'est à l'État d'héberger les personnes. Et donc, du coup, on interpelle régulièrement l'État, on interpelle aussi les préfectures, on interpelle l'opinion publique par des manifestations, par des tracts, par des communiqués de presse. Et on essaye d'organiser les personnes à la rue aussi, hein, qui ont besoin d'être mises à l'abri.
Récemment, il me semble que vous avez organisé un rassemblement, un événement, à une occasion spéciale.
Oui, on a organisé un rassemblement il y a la semaine dernière pour les 80 ans de la loi de réquisition. La loi de réquisition, donc 1945, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, il fallait loger les gens. Et donc, du coup, comme le constat a été fait qu'il y avait des logements vides, donc il y a eu une loi de voter pour réquisitionner les logements. Donc la réquisition, c'est un mot qui fait peur à tout le monde. En réalité, il ne s'agit pas de spolier les propriétaires, mais plutôt d'abord de les rencontrer et puis de leur expliquer que leur logement est vide et donc il faut qu'il soit mis à disposition de locataires. Mais ils sont indemnisés. Hein, l'État, à ce moment-là, les indemnise, ou la mairie. Ça dépend de qui fait jouer la loi de réquisition. Et donc, du coup, c'est une loi qui permettrait de loger des gens ou de les mettre à l'abri.
Alors, l'accès au logement, est-ce qu'il est donc défini par un droit ? Depuis quand et par qui ?
Alors, le droit au logement est un droit qui est défini dans la Convention internationale des droits de l'homme, en 1948. Mais c'est pas une loi. Il n'y a pas une loi précise qui oblige. Mais il y a quand même eu un certain nombre de dispositions légales. Entre autres, en 2007, il y a eu le droit opposable au logement, le DALO, et le droit opposable aussi à l'hébergement. Ce qui veut dire que les personnes, si elles ont besoin d'être logées ou d'être hébergées, peuvent faire valoir ce droit-là auprès des tribunaux.
D'accord. Et pourquoi est-ce que la LDH s'empare de ce sujet ?
Ben, c'est-à-dire que le logement, en fait, ça détermine l'accès au logement détermine l'accès à tous les autres droits. C'est-à-dire le droit au travail. Comment peut-on aller au travail quand on a dormi à la rue ? Le droit à la santé, le droit à l'éducation. Bien qu'aujourd'hui, par exemple, il y a à Nantes et partout en France de nombreuses familles avec des enfants qui sont à la rue et les enfants vont quand même à l'école. Mais pourquoi la LDH s'en préoccupe ? C'est parce que c'est l'ouverture de tous les droits, en fait. Et donc, comme la LDH se préoccupe de l'accès aux droits, naturellement, elle se préoccupe de la question du logement et de l'hébergement.
Parce que rappelons-le, la LDH est une association généraliste aussi.
Voilà, oui, ben oui. Donc c'est une association généraliste qui défend justement les droits et les libertés. Et donc du coup, les droits civiques, les droits sociaux. Voilà, donc du coup, c'était tout à fait normal que la LDH participe à cette question.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur la situation du mal-logement ? Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres ? Combien de personnes souffrent de mal-logement en France et à Nantes aujourd'hui ?
Alors, en France, il y a environ 4 millions de personnes qui sont... Ça, c'est les chiffres de 2023. Il y a environ 4 millions de personnes qui sont mal-logées. Dans les mal-logés, il y a aussi les non-logés. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a donc les personnes qui sont mal logées, les personnes qui sont hébergées chez les uns, chez les autres, les personnes qui vivent en bidonville, les personnes qui vivent en squat et les personnes qui sont carrément à la rue.
Et est-ce qu'on a des chiffres sur Nantes ?
Oui, sur Nantes, il y a environ 15 000 personnes qui sont, à la rue. Voilà. Donc, quand on rencontre le préfet, par exemple, il nous dit « Ah bon, il y a tant de gens que ça à la rue, mais quand on fait les maraudes, on ne trouve personne. » Alors, d'une part, c'est faux, parce que les maraudes trouvent toujours des gens dans la rue. Et puis, il y a plein de gens qui se cachent. Et puis, quand on dit à la rue, peut-être ils sont sous un porche, ou dans un garage ouvert, ou dans... voilà. Mais donc, ils sont à la rue. Et les maraudes ne les trouvent pas toujours, parce qu'ils se cachent beaucoup aussi.
Est-ce qu'on peut revenir sur le droit au logement et quels sont les freins au respect du droit au logement ?
Quels sont
les freins ?
Alors, il y a déjà la réalité de l'absence de logement suffisant. C'est-à-dire que, bon, il y a, effectivement, on manque de bâti, on manque de construction. Voilà, ça, c'est un des freins. Bon, ensuite, il y a des freins quand même... qui sont un manque de volonté politique pour vraiment résoudre cette question-là, même si on entend beaucoup les élus dire que ça les préoccupe. N'empêche que c'est quand même... C'est pas une priorité, donc du coup, voilà. Donc les freins, c'est cela. Et puis c'est aussi la pauvreté. Hein, plein de gens, en fait, n'ont pas les moyens. Vous avez, par exemple, des travailleurs pauvres qui ne peuvent pas s'offrir un logement. Ouais. Donc il y a aussi tout ça, quoi.
Oui, avec la hausse des loyers, la hausse en particulier
des loyers,
dans les grandes villes.
La spéculation sur le bâti. Voilà, il y a énormément de freins, effectivement.
À ce propos, est-ce qu'on peut revenir sur la loi Kasbarian-Berger ?
Oh, bien sûr, qui est une loi scélérate. Elle fait partie des lois que nous appelons les lois scélérates. C'est une loi qui a été promulguée en mai ou juin 2023. Qui a été étudiée donc dans l'année 2022. Alors en fait, c'est une loi qui est présentée comme une loi protectrice pour les petits propriétaires, c'est-à-dire pour les défendre contre les méchants qui occupent leur maison de manière indue. Alors, d'une part, quand il y a des squats, c'est rarement le squat de la petite grand-mère qui est partie en vacances à l'île de Ré. Hein. C'est rarement la maison du petit propriétaire. Ce sont des logements, enfin, ou des maisons qui sont vides depuis plusieurs années, qui sont plus ou moins à l'abandon. Et puis, c'est aussi des bâtiments publics. Mais sous le prétexte de défendre tous ces gens-là, finalement, on a conçu une loi qui permet, enfin, qui criminalise, en fait, l'occupation indue, entre guillemets, sans droit ni loi, qui criminalise donc les occupants donc de ces lieux, qui sont des squats, aussi qui criminalise les personnes qui, ne payant pas leur loyer, ont reçu un avis d'expulsion et ne partent pas. Et ben, eux aussi, ils peuvent être sous le coup de cette loi-là. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment une loi qui met à mal les personnes qui essayent de se mettre à l'abri.
C'est une loi assez récente, il me semble.
Oui, 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 2023.
Maintenant, le témoignage de Pascaline.
Et on demande asile. Voilà, et normalement, lorsqu'on demande, on demande l'asile, voilà, l'OFI met à la disposition du demandeur d'asile les moyens d'hébergement. Voilà, mais sauf que il faut répondre à certains critères. Dans mon cas, pour des raisons que je ne veux pas nécessairement évoquer, voilà, je l'ai fait un peu en dehors de ce cadre et donc du coup, ça n'a pas fait de moi une bénéficiaire de manière directe. C'est ce qui fait en sorte que normalement, voilà, je suis à la rue. Mais en même temps, dans les démarches, ils m'ont demandé de faire recours pour pouvoir faire une annulation par rapport à cette décision de non-acquisition de tout ce que je venais d'énumérer. Et malheureusement, ça a été refusé par le tribunal administratif. Et ces démarches ont été faites de manière répétitive. Donc, de faire recours. Et je pense que je suis déjà au moins à la troisième tentative. Et là, les réponses sont toujours négatives. Mais le 115, qui est la structure normalement qui m'a été présentée comme celle qui accueille des personnes à la rue, voilà, je me suis tournée vers elle, j'ai appelé plusieurs fois, malheureusement, je n'ai jamais eu de réponse positive. Voilà, du coup, ce qui fait que je suis vraiment livrée à moi-même et donc je n'ai pas d'autres moyens. Voilà, et à la halte, c'est un lieu qui accueille des femmes justement qui n'ont pas d'endroit où dormir. Et sauf que là-bas aussi, ils n'ont que 15 places de disponibles. Mais quand nous arrivons, la porte s'ouvre à 18h. C'est à 18h qu'ils font entrer les femmes qui ont été retenues. C'est un lieu juste qui nous est offert pour la nuit. Thank you.
Alors, après avoir entendu ce témoignage de Pascaline, qui est donc sans-abri à Nantes, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Annie, qui signale les personnes à la rue en général ?
Alors, les personnes à la rue se signalent elles-mêmes en appelant le 115. Alors, le 115, c'est un dispositif avec un numéro gratuit qui permet aux personnes de dire, voilà, je suis dehors, j'ai besoin d'un hébergement. Et normalement, le 115 doit répondre. Mais elles peuvent être aussi signalées par l'intermédiaire d'associations, par exemple le DAL, le Gazprom ou n'importe qui. Par aussi l'intermédiaire d'un citoyen qui trouve une personne à la rue et qui signale. Et les associations comme le Gazprom, le DAL, par exemple, remplissent régulièrement des signalements, mais les remplissent par écrit, envoient des dossiers au SIAO, qui est un service de la préfecture qui est chargé de l'hébergement, et signalent la situation des personnes. En fonction de l'état de précarité des personnes, ou de l'état de leur état de précarité, ou de vulnérabilité, on peut ou pas les loger. Bon, la plupart du temps, on ne les loge pas. Mais voilà comment... Alors, l'hôpital aussi. L'hôpital signale, évidemment, les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher, qui n'ont nulle part où aller avec leur bébé. Alors, il arrive que l'hôpital les garde des fois pendant un mois avec le bébé, mais au-delà, quand même, ça ne relève plus de l'hôpital. Et donc, les signalements sont faits, mais ne débouchent pas la plupart du temps.
Continuons avec la deuxième partie du témoignage de Pascaline.
De vous dire comme ça, c'est très difficile parce que toute la nuit, parfois, on ne dort pas avec un sommeil profond parce que justement, on se dit le matin, on va se lever. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où va-t-on la passer ? Et lorsqu'on est dehors, ben, c'est parce que à 9 heures, déjà, on doit libérer. Et dès qu'on est hors... du local, on commence à se poser la question de savoir je vais où, qu'est-ce que je vais faire. Et parfois, dans les premiers temps comme ça, on a envie de tourner seulement dans la ville, de profiter du chaud, être dans le bus ou encore attendre tranquillement assise dans un jardin. Quand on est dehors, on essaie de tourner pour perdre du temps, mais vraiment, quand... il y a des intempéries comme la pluie, par exemple. Vous voyez qu'on ne peut pas être dans un jardin. On peut aller au niveau de la gare, on tourne. On peut tourner dans des espaces commerciaux. Hein. Voilà, question de perdre du temps. Et moi, il m'arrive quelquefois, quand c'est comme ça, d'aller, de rentrer simplement dans une église. Je m'assois, au moins là, où je sais que je suis un peu à l'abri. Voilà, et après, c'est surtout dans les débuts. Et puis... petit à petit, quand on arrive à partager, à découvrir, c'est vrai qu'il y a des associations de l'accueil, déjà l'accueil du jour des femmes, voilà, qui ouvre également ses portes à partir de 10 heures, hein, de 10 heures jusqu'à 16 heures. Voilà, et sinon, après, voilà, on peut avoir des rendez-vous, on peut avoir autre chose, mais généralement, c'est ça. Quand on ne peut pas, parce que c'est pas d'ailleurs aussi toute la semaine que la hâte ouvre. Le mercredi déjà c'est fermé, le week-end il est fermé. Être seul à la rue, c'est pas déjà facile, c'est plus compliqué pour des personnes qui ont des enfants, pour ceux qui sont en famille. Donc de voir qu'une famille qui était dehors finalement a obtenu un toit, mais c'est un soulagement, c'est une joie. Simplement, ouais. Et on s'est dit au moins, voilà. Depuis tout, on peut être quand même entendu, on peut avoir des réponses. Il faut parfois traverser ce genre de situation pour pouvoir comprendre ce que c'est. Personne ne dira que c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose de beau. Encore moi-même, humain, j'ai envie de le dire, parce que être dehors, dans la nuit, dans le froid, sous la pluie, je ne pense pas qu'on le souhaiterait à quelqu'un. Non, même pas à notre ennemi. Donc ce sont des situations difficiles et qui fragilisent notre personne. Voilà, ça nous fragilise déjà sur le plan physique parce que être allongé à même le sol toute une nuit avec la fraîcheur, je ne vous en dirai pas plus, et Enfin, quand je parle de notre santé physique, mais aussi psychologique, j'ai envie de dire. Parce que après ça, on se pose beaucoup de questions. Et ça suscite parfois même beaucoup d'interrogations. Mais après, quand on est, j'ai pas envie de dire fragile, parce que là même, quelquefois, c'est indépendamment de notre force, de notre capacité de résister. Mais que la France est un pays de droit, que la loi quand même autorise un toit pour chaque personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me dis que ça vaut la peine de militer dans ce sens, parce que en même temps, parfois, nous ne savons pas quels sont nos droits, nous ne savons pas où nous tourner quand on a besoin de quelque chose. Et tout se retrouver seul, c'est parfois assez et difficile. Et donc, justement, dans le cadre du DAL, ça nous permet de savoir vers qui nous tourner. Et vers qui nous tourner, c'est vers l'État, qui a justement ce devoir de trouver un toit. Je peux le comprendre, ce n'est pas du tout facile, mais voilà, un peu de volonté.
On a compris que joindre le 115, c'était quasiment mission impossible. Mais est-ce qu'il y a des... Donc, on l'entend dans le témoignage. Il y a des lieux alternatifs, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les lieux alternatifs d'hébergement de nuit et aussi peut-être de jour?
Oui, il y a effectivement des lieux, beaucoup créés par la mairie, entre autres, qui sont gérés par des associations de professionnels. Donc il y a par exemple à Nantes un lieu qu'on appelle les 5 ponts, qui est un lieu à la fois d'hébergement et un lieu d'accueil de jour. Il y a la halte pour les femmes, il y a la maison des familles que l'intercollectif personne à la rue a contribué à créer avec la mairie. Enfin oui, il y a des lieux, effectivement. Comme le dit Pascaline dans son témoignage, par exemple, vous prenez la halte de nuit, 15 places, tous les jours, il y a 40 femmes qui sont dehors, et donc c'est un peu la course, hein, ces premières arrivées qui ont des places. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les lieux alternatifs? Ben oui, ils existent, c'est bien. Pour les mineurs non accompagnés à la rue, parce qu'il y en a aussi pas mal à Nantes. Bon, il y a eu... Alors là, pareil, c'est les associations qui ont réussi à tracter des choses avec la mairie. Il y a un lieu de 35 places pour les mineurs non accompagnés. Il y a un restaurant où ils peuvent aller tous les midis pour déjeuner. Enfin, oui, il y a un certain nombre de choses, mais qui ne répondent pas à l'entièreté des besoins. Et quand on rencontre le préfet... Il vous dit, vous me parlez de besoins, moi je vous parle de moyens. Bon, voilà, la discussion est finie.
En 2021, la métropole a voté le 1% du budget métropolitain à destination de la lutte contre le sans-abrisme. Alors, on en est où, Annie, par rapport à ça?
Alors, aujourd'hui, nous en sommes au fait que c'est un dispositif qui est quand même pas suffisamment utilisé, puisque c'est quand même un dispositif un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours une mairie qui s'engage pour soutenir un projet. Soit un projet que la mairie crée elle-même, soit un projet qui est apporté par une association. La mairie doit payer, je pense, 25% du projet et le 1% paye les 75%. Mais voilà, le problème, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est de trouver les mairies qui sont prêtes à s'engager. Donc la ville de Nantes s'est engagée pas mal, mais bon, évidemment, à nos yeux, de manière insuffisante, mais elle s'est quand même engagée. Et par contre, dans les mairies de l'agglo, il n'y en a que 5, je crois, qui se sont engagés sur un projet. Donc, effectivement, c'est nettement insuffisant, alors que l'argent est là.
Alors, on l'a vu, il reste beaucoup à faire. Donc, comment est-ce qu'on peut agir ? Alors, comment est-ce qu'on peut agir ? Peut-être d'abord à titre individuel, et puis ensuite, à titre collectif, peut-être.
Un titre individuel, non, moi, je trouve que ce n'est pas aux individus de... d'héberger par exemple les gens qui sont dans la rue, c'est pas aux individus, non, c'est quelque chose. Alors on peut agir à titre individuel avec notre bulletin de vote, on peut agir à titre individuel en s'engageant dans une association, voilà, mais c'est par l'engagement effectivement citoyen qu'on peut éventuellement, mais voilà. Et après, c'est ça, c'est le bulletin de vote aussi, c'est quand même un outil qui peut être utilisé pour justement contraindre les mairies à utiliser leur loi, à utiliser la loi de réquisition, contraindre l'État à utiliser la loi de réquisition pour effectivement loger les personnes.
Merci beaucoup Annie pour ces précisions qui nous ont permis de mieux comprendre la complexité du sujet et les difficultés aussi pour toutes ces personnes à se retrouver aussi peut-être dans ce labyrinthe administratif qui n'est pas toujours facile à aborder, et grâce aux associations quand même ils peuvent un peu mieux savoir vers qui se tourner.
Je veux bien terminer en disant la rue ça tue, et ça faut quand même l'avoir en tête. La moyenne d'âge des personnes qui survivent à la rue, c'est 48 ans. L'espérance de vie. Donc c'est vrai que quand même là, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et aussi pour les femmes, évidemment, les femmes seules à la rue, hein, c'est le viol, c'est la contrainte à la prostitution, c'est voilà, un toit, c'est un droit.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Merci Annie, merci Nathalène, merci France à la technique. Et quant à nous, nous nous retrouverons pour la prochaine chronique de l'ALDH au mois de décembre sur les ondes de Jet.